Bonsoir, chers amis, et bienvenue à cette première réunion spéciale ce soir à Strasbourg. Je suis très heureux d'être chez vous et j'ai à cœur de partager avec vous quelques pensées sur un sujet qui touche plutôt nos cœurs que notre intelligence. J'aimerais partager avec vous quelques pensées sur la grâce de Dieu dans l'Évangile selon Luc. Et ce soir, nous allons considérer un passage bien connu, le bon samaritain en Luc 10. Et demain soir, Dieu voulant, nous allons considérer le chapitre 15, cette histoire aussi bien connue du fils prodigue qui a été reçu dans la maison du Père. Mais avant de lire ce passage, ce soir en Luc 10, j'aimerais lire deux versets dans les épîtres de l'apôtre Paul. Le premier passage en 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, au verset 3. Car cela est bon et agréable devant notre Dieu Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un, l'homme Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et l'épître à Tite, chapitre 2, la première partie du verset 11, « Car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. » Dieu, dans sa sagesse, nous a donné quatre évangiles. Et les quatre évangiles nous présentent le Seigneur Jésus dans ses gloires. L'évangile selon Matthieu nous présente le Seigneur Jésus comme le roi d'Israël qui est venu pour son peuple terrestre pour établir le royaume, mais il a été rejeté. L'évangile selon Marc nous présente le Seigneur Jésus comme le serviteur, comme celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. L'Évangile selon Luc nous présente le Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme qui est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Et l'Évangile selon Jean nous présente, comme nous le savons, le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu qui est venu pour nous révéler le Père. Alors, l'Évangile selon Luc, c'est le Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme qui est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Non pas seulement son peuple terrestre, le peuple d'Israël, mais il est venu pour chacun de nous. Et pour cette raison, cet évangile, l'évangile selon Luc, nous présente la grâce de Dieu qui est apparue, comme nous avons lu en Tite 2, pour apporter le salut à tous les hommes. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue. La grâce de Dieu est apparue dans une personne, dans la personne du Seigneur Jésus qui nous apporte le salut. Si nous voulons savoir ce que c'est la grâce de Dieu, il faut contempler le Seigneur Jésus comme il est présenté dans cet évangile selon Luc. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, ça signifie que Dieu nous donne quelque chose que nous n'avons pas mérité. Dieu nous ouvre son cœur et il nous comble de ses bienfaits et nous n'avons rien mérité. Tout ce que nous avons dans le Seigneur Jésus est grâce. Nous n'avons rien mérité. Nous étions des pécheurs, nous étions des ennemis de Dieu, mais quand même Dieu nous a réconciliés avec lui dans la personne de Jésus, son Fils. Voilà la grâce de Dieu, visible dans la personne du Seigneur Jésus. Et cette grâce de Dieu n'est pas seulement venue pour sauver le peuple d'Israël. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu s'occupe principalement d'un peuple, le peuple d'Israël. Mais quand le Seigneur Jésus vient et la grâce de Dieu appartient dans la personne du Seigneur Jésus, cette grâce est accessible pour chacun qui croit. Comme nous avons lu en 1 Timothée 2, Dieu est un Dieu sauveur. Chers amis, Dieu est un Dieu sauveur. Oui, il est un Dieu saint, il ne peut pas accepter le péché, mais en même temps Dieu est un Dieu d'amour. Et pour cette raison, il veut nous sauver et il a trouvé un chemin pour nous combler de ses bienfaits. Dieu est un sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Non seulement le peuple d'Israël, mais tous les hommes soient sauvés. Et pour cette raison, il a donné ce seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est l'homme Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. Voilà. C'est comme un titre sur l'évangile selon Luc. Dieu a donné ce médiateur entre Dieu et nous, le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus comme le Fils de l'homme, comme il est présenté dans l'évangile selon Luc. Et si on lit l'évangile selon Luc, on voit qu'il y a certaines passage dans cet évangile qui se trouve seulement dans l'évangile selon Luc. Et ces passages qu'on trouve seulement dans l'évangile selon Luc nous parlent particulièrement de cette grâce de Dieu. Déjà avant la naissance du Sauveur, nous trouvons un verset remarquable dans cet évangile et j'aimerais lire ce verset au chapitre 1er. Là, il est de nouveau question du salut de Dieu. Et à la fin du chapitre 1er, verset 77, 77, c'est juste. J'ai appris le français en Suisse pour cette raison. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, là, il est dit, pour donner la connaissance du salut à son peuple dans la rémission de leurs péchés par les entrailles de miséricorde de notre Dieu selon lesquels l'Orient d'en haut nous a visités. Voilà, dans ce passage, avant la naissance du Seigneur Jésus, il est question, non pas de la grâce de Dieu, mais de la miséricorde de Dieu. Grâce et miséricorde sont comme des jumeaux. Ils vont toujours ensemble. On ne peut pas séparer grâce et miséricorde, mais on peut distinguer grâce et miséricorde. La miséricorde fait descendre Dieu du ciel sur la terre dans la misère des hommes. Dieu est venu dans la misère de chacun de nous, dans la personne du Seigneur Jésus, pour nous aider. La grâce, par contre, nous tire de la terre au ciel. La miséricorde vient du ciel sur la terre. Dieu est touché par notre misère et il vient pour nous aider. Et la grâce nous lève, nous tire de la terre au ciel pour nous donner une place, une position en Christ devant Dieu. Grâce et miséricorde. Notre misère comme pécheur a touché le cœur de Dieu. Il était ému de compassion, ça c'est miséricorde. Et pour cette raison, il a envoyé le Seigneur Jésus. Et la grâce nous donne une place en Christ. Il y a un deuxième passage, j'aimerais justement le remarquer. Après la naissance du Seigneur Jésus, nous avons ce récit de Siméon à Jérusalem, dès le verset 25, et j'aimerais justement lire le verset 29 du chapitre 2, Luc 2, verset 29. Siméon dit, il prie, « Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Il avait ce bébé entre ses mains, le Seigneur Jésus. « Mes yeux ont vu ton salut, lequel tu as préparé devant la face de tous les peuples. » Une lumière pour la révélation des nations et à la gloire de ton peuple d'Israël. D'abord, il est question des nations et après du peuple d'Israël. Pas l'ordre inverse. Pas d'abord Israël et après les nations, mais ici, les nations ont la première place. Le Seigneur Jésus, il est venu pour le salut de tous les hommes. Cela, bien sûr, ne signifie pas que tous les hommes acceptent cette offre de Dieu, bien sûr. Mais l'offre de la grâce est pour tous les hommes. Chacun peut venir. C'est propitiation. La propitiation est faite. Et chacun peut venir. Mais bien sûr, il faut accepter le salut que Dieu nous offre dans la personne de Jésus par la foi. Mais le salut est là. La grâce de Dieu est apparue apportant le salut. À la fin de l'épître de l'évangile selon Luc, il y a un autre passage remarquable, juste très brièvement, au chapitre 23, le Seigneur Jésus est pendu à la croix et il y a les deux malfaiteurs, un à la droite et l'autre à gauche du Seigneur Jésus. Matthieu et Marc nous disent que ces deux s'est moqué du Seigneur Jésus. Mais seulement Luc, nous dit qu'un des deux malfaiteurs a accepté le Seigneur Jésus à la dernière minute de sa vie. Il s'est repenti. Et c'était lui qui a dit au verset 41, « Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevrons ce que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci, c'est le Seigneur Jésus à côté de lui, n'a rien fait qui ne dût se faire. » Et il disait à Jésus, « Souviens de toi, de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et alors le Seigneur Jésus lui donne cette merveilleuse réponse. Nous connaissons ce verset, je pense très bien. Jésus lui dit, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce que c'est? C'est la grâce. Il n'a rien mérité, ce malfaiteur. Mais à la dernière minute de sa vie, il accepte le Seigneur Jésus et le Seigneur Jésus lui donne cette merveilleuse promesse « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous n'attendons pas la mort, mais la venue du Seigneur Jésus. Mais si nous passons par la mort encore, nous savons, le jour même, nous sommes avec lui, notre Seigneur, dans le paradis. C'est la grâce de Dieu qui encadre tout cet évangile. Et maintenant, nous aimerions lire ce passage au chapitre 10. Le passage où il est question du bon samaritain, ou on peut aussi dire le samaritain miséricordieux. Luc chapitre 10, verset 25. Et voici un docteur de la loi se leva pour l'éprouver. Il dit, « Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Comment lis-tu ? » Et répondant, il dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Et Jésus répondant dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains de voleurs qui aussi l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, par aventure, un sacrificateur descendait par ce chemin-là et le voyant passa outre de l'autre côté. Et pareillement aussi un Lévite, étant arrivé en cet endroit-là, s'en vint et le voyant passa outre de l'autre côté. Mais un Samaritain, allant son chemin, vint à lui. Et le voyant fut ému de compassion et s'approcha et banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant mis sur sa propre bête, il le mena dans l'hôtellerie et eut soin de lui. Et le lendemain, s'en allant, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te rendrai. » Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs. Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Je viens de dire que c'est un passage assez bien connu. Même nos enfants connaissent ce passage du bon Samaritain. Celui qui a usé de miséricorde envers ce pauvre ami qui était tombé dans les mains des voleurs. Ce passage contient 3 grandes leçons pour nous. La première leçon, c'est que nous y voyons l'état misérable de l'homme naturel qui est tombé dans les mains du Satan. Ce passage parle de notre état comme pécheurs et nous étions incapables de nous aider nous-mêmes et personne ne pouvait nous aider. Le désespoir, n'est-ce pas? C'était notre état, l'état de chacun de nous avant notre conversion. Et il ne faut jamais oublier d'où le Seigneur Jésus nous a sauvés. Nous étions dans le désespoir, sans espoir, sans Dieu, perdus entre les mains du diable, demi-mort. Première grande leçon. La deuxième leçon, dans ce passage, c'est comme Dieu a répondu dans la personne du Seigneur Jésus à nos besoins. Et comme il nous a aidés, comme il nous a sauvés, qu'est-ce qu'il a fait avec nous pour nous donner une position, pour nous bénir dans la personne du Seigneur Jésus? Voilà, c'est la grâce de Dieu qui est présentée dans ce passage, la miséricorde et la grâce de Dieu dans la personne du Samaritain, bien sûr, un type du Seigneur Jésus, le Sauveur. Et il y a une troisième leçon, une leçon très pratique, une application pratique à la fin de ce passage. Le Seigneur Jésus dit, va et toi fais de même. Nous avons aussi dans ce passage le Seigneur Jésus qui est un modèle pour nous, un modèle à suivre. Nous voyons des traces du Seigneur Jésus qui a usé de miséricorde envers ce pauvre homme et nous sommes appelés maintenant, avec la même attitude, d'aider ceux qui sont encore dans la misère. Alors, ce sont ces trois grandes leçons de ce passage. Au début, il y a un docteur de la loi, peut-être un scribe, quelqu'un qui connaissait très bien la loi de l'Ancien Testament. Il se leva pour l'éprouver. Il se leva. Il ne se prosterne pas devant le Seigneur Jésus, ce grand sauveur, mais il se leva et il essaye de l'éprouver. Il fait quelque chose que la loi avait interdit. Tu ne l'éprouveras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'est exactement ce que cet homme fait, ce docteur de la loi. Et il pose une question et il dit, « Maître, que faut-il que j'aie fait pour hériter la vie éternelle ?» Ce docteur de la loi, il commit trois fautes, trois impasses, on peut dire. D'abord, il dit « Maître ». Maître, ça signifie instituteur, quelqu'un qui prêche la parole. Oui, le Seigneur Jésus, il était un maître, c'est vrai, mais il était plus qu'un maître. Ce docteur de la loi ne voyait plus qu'un maître, un enseignant dans le Seigneur Jésus. C'est la première faute qu'il fait. La deuxième faute, il dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il voulait faire quelque chose pour obtenir la vie éternelle. Et bien sûr, l'Ancien Testament, la loi avait dit, si quelqu'un fait la loi, 100%, il aura la vie, pas la vie éternelle. Pas la vie éternelle. Si tu fais tes choses, Dieu avait dit, tu vivras. Vivras sur la terre, mais pas la vie éternelle. Mais l'homme était incapable de faire la loi. Que dois-je faire? C'est une question que beaucoup de gens posent aujourd'hui. Que dois-je faire pour obtenir quelque chose? Je veux plaire à Dieu, je veux faire quelque chose afin que Dieu m'accepte. Mais c'est une impasse. C'est un cul-de-sac. On ne peut rien faire pour obtenir quelque chose. Nous, comme chrétiens, nous ne faisons pas des bonnes œuvres pour que nous recevions la grâce. Nous faisons des bonnes œuvres parce que nous avons reçu la grâce, mais pas pour recevoir la grâce. Alors, une deuxième faute. Il voulait faire quelque chose pour obtenir quelque chose. Et la troisième faute qu'il fait, il voulait hériter quelque chose. Il pensait, j'ai un droit de recevoir la vie éternelle parce que je suis un juif. Je suis un fils d'Abraham et pour cette raison, j'ai un droit de recevoir quelque chose. Et cette histoire du bon samaritain parle de ces trois fautes. Un maître, un enseignant, ce pauvre homme tombé demi-mort par terre, avait-il besoin d'un instituteur, de quelqu'un qui lui explique la parole de Dieu? Une prédication? Non, pas du tout. Il avait besoin de l'aide active du Samaritain, pas une prédication. Ce pauvre homme, pourrait-il faire quelque chose? Il ne pouvait faire rien du tout, il était demi-mort, il était incapable de faire n'importe quoi. Et le Samaritain ne dit pas, il faut garder la loi et tu vivras. Non, le Samaritain a aidé ce pauvre homme. Et troisièmement, cet homme tombé par terre, demi-mort, il n'avait aucun droit de recevoir quelque chose. C'était la grâce pure qui s'est occupée de lui. Alors, le Seigneur Jésus lui répond, « Qu'est-ce qu'il écrit dans la loi? Comment lis-tu ?» Ce docteur de la loi est venu au Seigneur Jésus sur la base de la loi. Il voulait faire quelque chose. Alors, le Seigneur Jésus lui répond sur la base de la loi. Il dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Mais il ajoute, comment lis-tu? Et la réponse nous montre que ce docteur de la loi savait très bien ce que la loi avait dit. Mais il ne pouvait pas donner une réponse à la question, comment lis-tu? Et juste une petite application, entre parenthèses, cela s'applique aussi à nous. C'est une chose de savoir ce que la parole de Dieu dit, d'être capable même d'expliquer la parole de Dieu. Mais il y a une deuxième question, comment est-ce que nous lisons la parole de Dieu? Non pas seulement pour bien comprendre, mais pour que la parole de Dieu ait une répercussion sur notre vie. Comment est-ce que nous lisons? Si on lit un passage dans la parole de Dieu, on pose ces deux questions. Qu'est-ce que le passage nous dit? Qu'est-ce que ce passage signifie? Mais deuxièmement, quelle est l'application pratique pour moi de ce passage, entre parenthèses. Alors, le docteur de la loi, il répond, il dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. » Une citation de Deutéronome 6, comme nous dit la note. Et il ajoute, justement, « Et ton prochain comme toi-même. » Citation de Lévitique 19, comme nous dit la note. Alors, ce docteur de la loi, il connaissait la loi très bien, mais il n'avait aucune idée ce que la grâce de Dieu peut faire. Alors, le Seigneur Jésus dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Il lui répond sur la base de la loi. « Fais ceci et tu vivras. » Le Seigneur Jésus ne dit pas « et tu auras la vie éternelle, mais tu vivras. » Mais ce docteur voulait se justifier lui-même et il disait à Jésus « et qui est mon prochain ?» Oui, la loi disait « aime ton prochain comme toi-même. » Alors il dit « qui est mon prochain ?» Il lance un défi au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, dans sa grâce, il lui donne une réponse et il lui montre quelque chose plus grand que la question « qui est mon prochain ?». Ce passage du bon samaritain à la fin montre à ce docteur de la loi que c'était lui qui était tombé dans les mains des voleurs. À la fin, il dit, verset 36, « Lequel des trois semble avoir être le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs ?» La question était, « Qui est mon prochain ?» Et à la fin, le Seigneur Jésus dit, « Tu es cet homme, toi. Tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la miséricorde. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide dans ta misère dans laquelle tu es. » Alors, le Seigneur Jésus, il dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains des voleurs qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Ces versets nous montrent, dans peu de mots, très clair, la situation dans laquelle chacun de nous était et dans la situation dans laquelle chacun est qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus dans sa grâce. Il parle d'un certain homme, un homme il n'est pas dit qui est cet homme, un juif, un grec, un homme. Ça signifie chacun de nous, notre histoire. Cet homme, il descendit de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, c'était la ville du grand roi. C'était la ville où se trouvait le temple. La présence de Dieu était à Jérusalem. Par contre, Jéricho était une ville sous la malédiction. Voilà le chemin de chacun de nous, de chaque homme par naissance. Nous avons quitté la présence de Dieu pour aller à la malédiction. Le péché avait l'effet que Adam et Ève ont dû quitter le paradis, la présence de Dieu. Ils n'étaient plus dans la présence de Dieu. Et la fin de ce chemin était la mort, la malédiction, Jérusalem à Jéricho. Et pendant ce chemin, il tomba entre les mains des voleurs. Là, nous voyons Satan et ses anges tomber dans la main de Satan. Le diable lui est toujours une proie. Et que fait Satan? Qui aussi, l'ayant dépouillé et l'ayant couvert de blessures, dépouillé. Adam et Ève se sentaient nus après la chute. Nous avons perdu l'innocence. Et c'était Satan qui nous a ôté l'innocence, nous par notre péché, mais sous la direction de Satan dans le paradis. L'ayant couvert de blessures, le péché fait toujours du mal. Et le laissant s'en aller, le diable laisse l'homme seul, isolé. Et le laissant à demi-mort. C'est une expression intéressante, demi-mort. Cet homme était encore vivant, mais en même temps, il était déjà presque mort. Et voilà, c'est exactement l'état de l'homme naturel. L'épître aux Romains et l'épître aux Éphésiens nous présentent la situation de l'homme sans Dieu. Et l'épître aux Romains nous présente l'homme comme vivant dans le péché. Et l'épître aux Éphésiens nous présente l'homme mort dans les péchés. Les deux sont vrais. Vivant dans le péché et mort dans les transgressions. Romains et Éphésiens. Et dans cette expression ici, à demi-mort, nous pouvons peut-être voir ces deux conditions. Romains, vivant, Éphésiens, mort. Ce pauvre ami était incapable de faire n'importe quoi pour se sauver. J'ai déjà dit, c'est le désespoir, n'est-ce pas? Il ne pouvait rien faire. Il était sans espoir, incapable de faire quelque chose pour changer sa situation. Il attendait la mort. Il ne pouvait rien faire. Ainsi, personne ne peut se sauver soi-même. C'est impossible. Et en outre, en plus, il n'y a personne en dehors qui pouvait aider. La religion, des exercices religieux ne sauvent pas. Il y a ce sacrificateur et ce lévite, les représentants de la religion juive. Il ne pouvait, il ne voulait pas aider et il ne pouvait pas aider. Sans espoir. Mais il y a un changement. Au verset 32, nous lisons « Mais un Samaritain ». Mais. Voilà, ce « mais » change cette histoire. Mais Dieu. Mais le Seigneur, il y a un Samaritain allant son chemin. Ce Samaritain, bien sûr, parle du Seigneur Jésus. Les Juifs ont dit, tu es un Samaritain et tu as un démon. C'est une expression, un titre de mépris, n'est-ce pas ? De tituler le Seigneur Jésus un Samaritain. Mais le Seigneur Jésus, il a accepté ce mépris. Il a accepté ce nom qu'on lui a donné, Samaritain. Il a aussi accepté le nom Nazaréen. Même au ciel, il dit, je suis Jésus le Nazaréen. C'est aussi un titre de mépris qu'on a donné au Seigneur Jésus. Un Samaritain, pas un Juif, un Samaritain, allant son chemin. Ce pauvre homme, il était descendu de Jérusalem à Jéricho. Le sacrificateur, il a dit, descendez par ce chemin-là. Ça veut dire qu'il a pris le même chemin de Jérusalem à Jéricho, le sacrificateur, et aussi le Lévite de Jérusalem à Jéricho. Le temple était à Jérusalem et le sacrificateur devrait être à Jérusalem, pas en chemin pour aller à Jéricho. Mais voilà, tout change au verset 33. Là, il est dit un Samaritain allant son chemin. Il n'est pas dit qu'il est descendu de Jérusalem à Jéricho. Il faut lire la parole de Dieu soigneusement. Dieu fait cette différence, l'Esprit Saint fait cette différence, ou le Seigneur Jésus fait cette différence. Il était en chemin ou en voyage. Et si on lit les versets 33 et 34, nous voyons des différentes gloires du Seigneur Jésus. La première chose mentionnée, c'est qu'il était en chemin ou en voyage. Chers amis, le Seigneur Jésus était en voyage. Il est venu du ciel sur la terre. Le ciel a visité la terre. Et la fin de ce voyage, c'était la croix de Golgotha. Ici, il n'est pas question de la croix, mais nous savons, c'était la fin du chemin du Seigneur Jésus. Il est venu du ciel sur la terre, le médiateur entre Dieu et homme. Et pour que le Seigneur Jésus pouvait être le médiateur, il a dû devenir un homme, parce que nous avions besoin d'un homme, d'un médiateur qui mettait ses mains sur Dieu et sur nous. Le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le seul médiateur. Il est venu du ciel sur la terre, la première chose. Deuxièmement, nous lisons, il le voyait. Non, pardon. Il est venu à lui. Il est venu à lui. Chers amis, le Seigneur Jésus est venu jusqu'à nous. Il n'est pas seulement venu sur la terre. Il s'est abaissé lui-même pour venir sur la terre. Mais il est venu vers nous, pécheurs voulu descendre. C'est ce que nous chantons dans ce beau cantique. Le Seigneur Jésus est venu à chacun de nous pour nous sauver. Troisièmement, nous lisons qu'il le voyait. Le Seigneur Jésus, il avait des yeux ouverts pour voir la misère de nous. Quatrièmement, nous lisons qu'il était ému de compassion. Le Seigneur Jésus était ému de compassion. J'ai dit, ça c'est miséricorde. La misère des hommes a touché l'intérieur, le cœur ou les entrailles du Seigneur Jésus, ému de compassion. Il n'a pas seulement aidé, mais il a fait avec des sentiments intérieurs, la piété, la miséricorde, ému de compassion. C'est à plusieurs reprises que nous lisons que le Seigneur Jésus était ému de compassion. Notre misère a touché le cœur du Seigneur Jésus, chers amis. N'oublions jamais que le Seigneur Jésus est un sauveur miséricordieux. Il a le pouvoir, c'est vrai, de nous sauver, mais il a fait avec des émotions, avec un cœur touché de notre misère. Cinquièmement, nous lisons, il s'approcha. Pour s'approcher de ce pauvre homme, ce Samaritain a dû descendre de son bête, n'est-ce pas? Il avait un bête, il était sur la bête. Et il s'est incliné. Le Seigneur Jésus, il était riche. Il est devenu pauvre. Il s'est abaissé lui-même. Oh, quel sauveur admirable, le Seigneur Jésus, dans sa grâce et dans sa miséricorde. Il s'approcha et il a bandé les plaies. C'est la sixième chose que nous lisons. Il s'est occupé des blessures et il a appliqué, c'est le septième point, de l'huile et du vin. L'huile, c'est un type de l'Esprit Saint, le vin, un type de la joie. C'est ce qu'il donne à ce pauvre homme. Combien le Seigneur Jésus a fait pour ce pauvre homme. Il a aidé dans la misère dans laquelle cet homme était. Il a fait tout ce qui est nécessaire pour changer la situation. Nous avons considéré ces sept choses. En voyage, il est venu pour lui, il l'a vu, il était ému de compassion, il s'est approché, il a bandé ses plaies et il a appliqué l'huile et du vin. Et après, tout était fait, n'est-ce pas? Il aurait pu dire, moi, je t'ai aidé maintenant, va et retourne à Jérusalem. Bon courage, mon ami. Mais ce n'est pas ce que le Samaritain fait. Il a répondu aux besoins de cet pauvre homme, c'est vrai. Mais il fait davantage. Et chers amis, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus a fait avec nous. Oui, il a répondu à nos besoins. Mais le Seigneur Jésus, il a fait davantage. Et je reviens sur le sujet Romains-Éphésiens. L'Épître aux Romains nous montre ce que Dieu a fait selon nos besoins. Nous avions deux problèmes, et chaque homme aujourd'hui a deux problèmes. Premier problème, il a commis des péchés. Et deuxième problème, il est un pécheur. Et Dieu, dans la personne du Seigneur Jésus, répond à ces deux besoins. Il nous pardonne des fautes, des péchés, et il nous aide, identifie avec le Seigneur Jésus dans sa mort pour résoudre le deuxième problème. Dieu a fait tout ce que nous avons besoin. Mais l'Épître aux Éphésiens nous montre que Dieu fait davantage. Et que fait le Samaritain? Trois choses sont mentionnées. Il l'a mis sur sa propre bête, il l'a mené dans une auberge, une hôtellerie, et il a pris soin de lui. Et c'est exactement, chers amis, ce que le Seigneur Jésus, dans sa grâce infinie, a fait avec nous. Il nous a mis dans sa propre bête. Avant, le Samaritain était sur ce bête. Après, ce pauvre homme était sur ce bête. C'est la bête ou le bête? Merci. La bête, pardon. le Seigneur Jésus nous donne sa propre position. Nous sommes identifiés avec Christ. Et c'est surtout les épîtres aux Colossiens et aux Éphésiens qui nous parlent de notre identification avec Christ. Nous sommes identifiés avec lui dans sa mort, dans sa résurrection. Il nous a ressuscités avec le Christ. Il nous a vivifiés avec lui. Et l'Épître aux Éphésiens nous dit, il nous a donné une position avec Christ dans les lieux célestes. Nous avons une position en Christ. Ce pauvre homme était sur la bête du Samaritain. Ainsi, nous sommes dans une position maintenant avec le Seigneur Jésus. Il le mène dans une auberge, une hôtellerie, comme il est dit dans le texte. Il n'a pas laissé ce pauvre homme seul. Dans cette auberge, il pouvait avoir communion avec d'autres. Et ainsi, nous, comme sauvés, nous ne sommes plus seuls, mais nous sommes dans une auberge, dans une hôtellerie. On peut peut-être faire une application à l'assemblée avec prudence, mais ça c'est possible de faire cette application. Ce n'est pas l'explication, mais c'est une application. Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes en communion avec d'autres. Et troisièmement, il a pris soin de lui. Le Samaritain s'est occupé de cet pauvre homme, même au moment où il était déjà sauvé. Et chers amis, c'est ce que le Seigneur Jésus fait pour chacun de nous. Il prend soin de nous. Et là, il y avait un hôtelier, et il lui dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, moi, à mon retour, je te le rendrai. » Peut-être dans cet homme, cet hôtelier, on peut voir un type de l'Esprit Saint. De nouveau, avec une certaine prudence, mais je pense que cet homme nous parle du Saint-Esprit qui s'occupe de nous aujourd'hui. Et le Samaritain parle de son retour. Et nous savons très bien que le Seigneur Jésus est allé auprès du Père, mais un jour, il viendra nous chercher. Et le jour où il revient, ce jour est proche. Il a dit, je viens bientôt. Mais jusqu'à ce moment, il y a le Saint-Esprit qui prend soin de nous. Et il y a ces deux déniers. Et c'est difficile à dire ce que les deux déniers signifient. Je fais une proposition, mais c'est seulement une proposition. Je ne dis pas que c'est l'explication, mais c'est une proposition. Le premier denier, c'est la parole de Dieu, et le deuxième, la prière. Pourquoi cette proposition? Parce que les deux passages qui suivent en Luc 10, le dernier passage, versets 31 à 42, nous parle de cette scène à Béthanie où Marie était au pied du Seigneur Jésus pour entendre sa parole. Et au chapitre 11, nous avons la demande des disciples qui disent au Seigneur, « Enseigne-nous à prier. » Alors, peut-être, juste une proposition, ces deux déniers nous parlent de ces deux choses, la parole de Dieu et la prière avec lesquelles nous avons communion avec le Seigneur Jésus, ou communication avec le Seigneur Jésus. Il parle à nous et nous parlons à lui. Mais le jour viendra où ce Samaritain retourne, à mon retour. Alors, nous avons vu l'état naturel de l'homme, perdu, sans espoir, sans Dieu, demi-mort, vivant dans le péché, mort dans les transgressions. Nous avons vu le Seigneur Jésus dans l'image du Samaritain qui est venu du ciel sur la terre pour répondre à nos besoins et pour nous donner davantage, pour nous donner une position en Christ. Et à la fin, le Seigneur Jésus pose une question. Verset 36. « Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs ?» Et j'ai déjà expliqué, ça signifie que le Seigneur Jésus dit à ce docteur de la loi, « Écoute, tu es cet homme tombé dans les mains du pécheur, et je suis ton prochain. » Il pose cette question, « Qui était le prochain ?» Et le docteur dit, « Celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Il ne dit pas le Samaritain, mais il dit, « Celui qui a usé de miséricorde envers lui. » Et la dernière chose, dans ce récit, le Seigneur Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Pour ce docteur de la loi, c'était impossible, parce qu'il ne voulait pas recevoir cette grâce. Mais c'est quelque chose quand même qu'on peut appliquer à nous. C'est le Seigneur Jésus qui nous a aidés. Il est venu dans notre misère. Il nous a sauvés. Il a usé de grâce, de miséricorde envers chacun de nous. Et maintenant, la question que se pose, quelle est notre réponse ? Le Seigneur Jésus dit aussi à chacun de nous, « Nous, va et fais de même. » Avec quels yeux, avec quels sentiments est-ce que nous voyons des hommes qui sont encore dans la misère, qui sont encore perdus, comme ce pauvre homme ? Nous ne pouvons pas les sauver, c'est vrai. Seulement le Seigneur Jésus peut sauver, mais nous pouvons quand même aider les hommes. Nous pouvons leur dire qu'il y a un sauveur qui peut les sauver. Nous pouvons communiquer cette bonne nouvelle, cet évangile qui nous parle de Dieu qui a trouvé un chemin pour qu'un pécheur puisse être réconcilié avec Dieu. Oui, on lit ce passage et nous disons, merci Seigneur que tu es venu, que tu m'as aidé, que tu m'as vu dans ma misère, que tu m'as sauvé, que tu m'as donné une place avec toi, que tu prends soin de moi, merci que tu reviens un jour, quelle joie pour chacun de nous. Mais quand même, cette question demeure. Va. Et toi, fais de même. Nous pouvons suivre le Seigneur Jésus, celui en qui la grâce de Dieu est apparue pour apporter le salut pour chacun de nous. Demain soir, Dieu voulant, nous allons considérer ce passage aussi bien connu en Luc 15, où nous voyons la grâce divine, la grâce du Seigneur Jésus, ou l'activité divine, l'activité du berger, du Seigneur Jésus, l'activité de cette femme, le Saint-Esprit et surtout le Père qui reçoit le Fils qui est revenu à lui. Et ce passage, de nouveau, nous parlera de la grâce de Dieu. Merci de votre attention.
Strophes 1 et 2. article 74.
74.
Amen.